Et à 8h23, il est là avec la presse du jour. Frédéric Couteau, bonjour.
Bonjour Michael, bonjour à tous.
À la une de la presse française ce matin, l'escalade de la violence en Afghanistan.
Pas moins de 6 attentats en l'espace de 15 jours, nous rappelle le Figaro. La deuxième quinzaine de janvier a été particulièrement meurtrière en Afghanistan. Il y a eu notamment l'attaque de l'hôtel intercontinental de Kaboul, 40 morts. Puis l'attentat à l'ambulance piégée qui a fait 103 morts. Pour le Figaro, cette flambée de violence démontre que la situation militaire et le processus de paix échappent à l'administration Trump. Les déclarations triomphantes, la pression sur les talibans ont poussé ces derniers, non pas à négocier, mais à répliquer par des attentats spectaculaires, donc, afin de démontrer leur force de frappe. Chaque camp fait le même raisonnement, finalement, estime Boran Osman, chercheur à l'International Crisis Group, interrogé par le journal. Il faut intensifier les attaques, poursuit-il, pour arriver aux négociations en position de force, d'où cette escalade militaire et toujours plus de sang versé. Dans son éditorial, le Figaro nous rappelle que depuis le désengagement décidé par Barack Obama, les talibans sont de retour en force, actifs sur 70% du territoire afghan. Donald Trump devait trancher, se désengager totalement et leur laisser le champ libre, ou bien accroître l'effort militaire. Trump a choisi, il ne sera pas le président américain qui laissera Kaboul retomber aux mains des islamistes. Seulement voilà, s'interroge le journal, des renforts militaires au service de quelle stratégie politique? Pas un indice, ni à la Maison-Blanche, ni au Pentagone. Pourtant, relève le Figaro, le grand jeu est plus complexe que jamais. En Afghanistan se croisent les intérêts de la Chine, de l'Inde, du Pakistan, des pays du Golfe, de la Russie. Tout cela favorisant bien sûr la versatilité des alliances.
Autre guerre, Frédéric, cette fois en Syrie, une guerre qui est loin d'être terminée, note Libération.
Les combats se poursuivent en effet contre l'État islamique dans la région de Deir ez-Zor, c'est dans le sud-est de la Syrie. Au nord, l'armée turque et des groupes rebelles tentent de chasser les combattants kurdes d'Afrin. Et à Idlib, dernière province encore contrôlée par l'opposition, les bombardements sont quasi quotidiens, relève Libération. Ces bombardements visent des marchés, comme celui d'Aria, frappé par un avion russe mardi matin, où au moins 15 personnes sont mortes, mais aussi des hôpitaux. Lundi, les frappes aériennes menées par les forces de Bachar al-Assad ont notamment détruit un hôpital soutenu par MSF, Médecins sans frontières. Au total, 16 établissements hospitaliers ont été bombardés au mois de décembre, selon les Nations Unies. Je suis atterré par les attaques qui se poursuivent contre des hôpitaux et des centres de santé dans le nord-ouest de la Syrie, a déclaré le coordinateur régional de la crise syrienne pour l'ONU, Panos Moumtsis. Ces attaques privent, poursuit-il, des centaines de milliers de gens de leurs droits basiques à la santé. L'hôpital de Médecins sans frontières détruit lundi effectuait 3800 consultations par mois à lui seul. La situation est d'autant plus préoccupante, souligne Libération, que cette province d'Idlib sert de refuge à plus d'un million de Syriens chassés par les bombardements et les combats à travers le pays. Des familles viennent d'Alep, de Hama, de Homs ou encore de Raqqa. Pour certaines, c'est la troisième ou quatrième fois qu'elles sont contraintes de s'échapper et de se réinstaller ailleurs. À Idlib, les loyers ont explosé, note encore le journal, et les camps informels ont essaimé. Il y en a aujourd'hui plus de 160. La province est surpeuplée, avec 2,6 millions d'habitants, et leurs conditions de vie se sont encore aggravées depuis la mi-décembre et le début de l'offensive du régime.
En France, l'émotion et la colère après l'agression d'un jeune garçon de 8 ans en pleine rue lundi soir à Sarcelles, en banlieue parisienne, agressé parce qu'il était juif.
Oui, parce qu'il portait une kippa, parce que quelques franges de son châle de prière dépassaient de son manteau, parce qu'il est d'une confession qui ne sied pas apparemment à de furieux fanatiques. Un enfant de 8 ans a donc été victime de la haine la plus brutale dans les rues de Sarcelles, s'indigne Paris-Normandie. Il y a une nouvelle forme d'antisémitisme, violente et brutale, admet avec raison le Premier ministre, Édouard Philippe. Mais au-delà des seuls constats, s'interroge le quotidien normand, comment sortir de cette situation d'abjection savamment entretenue par des réseaux radicaux? L'Est républicain s'agace justement des propos du Premier ministre. De grâce, que nos élites ne fassent pas semblant de découvrir notre poisseux héritage antisémite. De la fin du 19e siècle à nos jours, notre pays a enfanté des Édouard Drummond et des Charles Maurras, furieusement antisémites, et des Zola Dreyfusards. On a eu aussi les racistes des années 30, la milice et Vichy pendant la guerre, puis les xénophobes contemporains, les Dieudonné, les Soral ou encore le gang des barbares, torturant jusqu'à la mort Ilan Ilan Halimi, car juif, donc présumé riche. C'était en 2006. Donc, non, monsieur le Premier ministre, s'exclame l'Est républicain, non, il n'y a pas de nouvelle forme d'antisémitisme, mais un sentiment persistant d'impunité, d'ordures incultes dans les cités comme ailleurs.
Enfin, l'éviction par le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, de Mathieu Gallet, le président de Radio France, est la conséquence de sa récente condamnation à Mathieu Gallet pour favoritisme lorsqu'il était président de l'ENA. Cette éviction, Frédéric, elle fait débat ce matin dans les journaux.
Oui, pour le Midi Libre, c'est le choix de l'exemplarité. En décidant de débarquer Mathieu Gallet de la présidence de Radio France, le CSA envoie assurément un message fort à tous les fonctionnaires en charge d'un média national. Désormais, la moindre condamnation entraîne illico, une révocation sans autre forme de procès. Et puis, d'autres journaux voient dans cette révocation la mainmise de l'État. Ainsi, pour Sud-Ouest, la décision du CSA pose la question de l'indépendance du gendarme de l'audiovisuel, mis sous pression par la ministre de la Culture, Françoise Nyssen. Le bilan plutôt satisfaisant de Mathieu Gallet à la Maison de la Radio, dont les antennes ont gagné 2 points d'audience en 4 ans, avec un budget revenu près de l'équilibre. Ce bon bilan, donc, n'a pas pesé lourd face à la volonté de la ministre et de ses supérieurs à l'Élysée et à Matignon.